Il est 8h47 minutes. C'est l'heure de retrouver Mathieu Roy pour parler de techno. Puis, la techno nous a lâché ce matin. On va le on va l'avoir au téléphone.
Non, mais on peut toujours se fier sur cette bonne vieille technologie de monsieur Graham Bell.
Oui.
Mais ça ne fait pas très ça fait pas 2020 tellement.
Là. Non,
mais
ça fait pas très.
Ça ne se produira plus.
Mais console-toi, tu n'es pas le premier. On a eu des problèmes avec François aussi. François Gagnon aussi, qui a eu des petits problèmes techno ce matin. Bon.
Qui est techno à 16h, lui aussi, soit dit en passant.
Oui, c'est vrai. Je ne pense pas que ce soit le facteur soit humain ce matin. Bon, parlons un peu de Twitter et des tendances liées aux Canadiens de Montréal. Il y a beaucoup de messages qui se passent sur Twitter par les temps qui courent.
Puis c'est vraiment un signe des temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute un événement en direct et on est souvent sur Twitter. Je trouve encore que c'est le média social le plus adéquat quand il est question de suivre quelque chose minute par minute, comme un événement sportif. Twitter, ça peut agrémenter comme ça votre match de hockey. On parle souvent d'un deuxième écran. Moi, hier, j'étais sur mon iPad pour suivre le match et sur mon téléphone, effectivement, je regardais ce qui s'écrivait. Il faut savoir que sur Twitter, depuis le début des séries éliminatoires, 9 des 10 matchs de la Ligue nationale de hockey qui a généré le plus de gazouillis, eh ben, étaient des matchs qui impliquaient le Canadien de Montréal.
Ah ben
donc,
oui.
C'est quand même pas rien. Il y a vraiment un engouement pour, un, le Canadien, mais aussi pour le deuxième écran. Pas besoin de vous dire, évidemment, qu'il y a des mots-clics qui sont utilisés et qui sont un peu, je dirais, officiels sur la plateforme Twitter, comme le fameux Go Habs Go, qui va vous permettre de voir le petit emoji du Canadien. Canadien de Montréal est un sujet aussi amplement discuté. Stanley Cup, là aussi, souvent, plus on se rapproche, bien sûr, du fameux trophée, ça devient de plus en plus populaire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les comptes des joueurs des Canadiens qui ont été les plus mentionnés depuis le début des séries éliminatoires. En cinquième place, c'est le fameux KK, Jesperi Kotkaniemi.
Oui.
Quatrième position, Nick Suzuki. Troisième, Tyler Toffoli. Deuxième position, attention, on se rapproche du grand gagnant, Cole Caulfield. Et en première place, c'est notre joueur vedette, notre plus gros salarié chez le Canadien de Montréal, le gardien de but numéro 31, ouais. Carey Price.
On s'en doutait un peu quand même.
Oui, ouais. Et son compte Twitter est quand même un peu complexe. Là, c'est CP00031, donc si vous voulez le suivre vous aussi. Et soit dit en passant, le tweet sur les Canadiens de Montréal qui a été le plus retweeté depuis le début du printemps, c'est le but victorieux d'Arturi Lehkonen lors du match contre les Golden Knights de Las Vegas. Et même le légendaire Tim Raines, qui a assisté au match numéro 2 entre le Canadien et les Golden Knights, se retrouve dans l'histoire 2.0 du Canadien parce que depuis ce printemps, c'est le tweet qui a été le plus aimé sur le Canadien de Montréal.
D'accord. Bon, parle-moi du AirTag de Apple, qui est cette espèce de pastille là, qu'on peut mettre sur certains objets là, qu'on veut retrouver ou qu'on veut pas perdre. Alors, il y a des mises en garde au sujet de cette fameuse bébelle.
Oui, puis bon, même si la mise en garde vient de l'Australie, elle n'est pas pour le moins préoccupante parce que ça n'a rien à voir avec la géographie de l'Australie ou encore les températures ou leur faune et leur flore qui leur est propre, mais bien au sujet des piles qui sont incluses dans les fameux AirTags. Les AirTags, c'est gros comme un 2$ et comme tu l'as dit, on peut mettre ça sur un porte-clés, une valise, un sac à dos.
Ouais.
Dans mon cas, je l'ai mis sur porte-clés, mais aussi sur mon vélo que j'ai pas le goût de me faire voler, pas parce qu'il vaut cher, mais parce que ça devient rare un vélo électrique cargo qui peut embarquer les enfants. Alors, j'ai mis ça là-dessus et grâce au fameux réseau d'Apple, on est capable de savoir où se trouvent ces différents éléments et on est capable de les faire sonner. Donc, ça peut être très pratique pour ceux qui perdent à peu près tout. Alors, le problème, c'est que à l'intérieur de ça, et c'est un problème mais c'est aussi un avantage, il y a une pile qui est remplaçable et que nous, on peut remplacer. C'est pas toujours que Apple nous permet d'ouvrir leurs appareils pour remplacer des composantes, mais il y a une pile plate qui s'appelle la CR2032 que vous avez déjà vu peut-être dans des montres là. Et le problème c'est que en ce moment Apple a un système pour ouvrir ces AirTags là peut-être un peu trop facilement ouvrable. Donc l'espèce de capot, c'est vrai qu'on tourne d'à peu près seulement 1/8 de tour et on est capable d'accéder à la batterie et ça peut causer des cas vraiment graves si par exemple on ingère cette batterie là. Bien sûr,
les adultes qui va se mettre la batterie. Là, mais, si on parle d'enfants, là, c'est ça?
On parle d'enfants, okay. Effectivement. Donc, il n'y a pas d'avertissement qui nous dit qu'effectivement, il y a une pile qui peut être facilement accessible. Et évidemment, on va suggérer qu'Apple fasse les recommandations d'éloigner des enfants parce que des ingestions, lorsque des enfants ingèrent des batteries, c'est quand même relativement fréquent, mais ça peut être extrêmement dangereux. Et cette espèce de pastille-là, elle peut piquer la curiosité. Tu sais, elle est lisse, elle est ronde, elle est deux couleurs, métallique. Je peux imaginer qu'un bébé puisse jouer avec ça si jamais il met la main sur un porte-clés. Là.
Mais est-ce que ça fonctionne bien, le AirTag?
Ça fonctionne étonnamment très bien, Louis. Moi, je l'ai essayé, j'ai fait quelques tests avec ça, puis je me suis amusé, j'ai collé ça en dessous de ma canette de bière, puis j'ai dit à ma copine, place la canette à quelque part, je vais essayer de la retrouver. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que ça utilise le fameux My Network. Donc, tous les appareils Apple, lorsqu'ils passent à proximité d'un AirTag, vont simplement... publier ou plutôt annoncer l'endroit où il se trouve. C'est de façon purement anonyme. On ne sait pas quel téléphone a passé à proximité de ces fameuses pastilles-là, mais nous, sur notre application, on est capable de voir de manière, avec le Apple Maps, là, avec le système de cartographie, où elle se trouve de manière générale. Et quand on va se rapprocher, qu'on va rentrer dans le champ Bluetooth, eh bien là, ça va vraiment être des flèches, un peu comme une boussole qui va nous dire où se trouve cette fameuse pastille, ce fameux module. Et si c'est votre porte-clé ou encore votre valise, vous êtes même capable de faire sonner la petite pastille et vous allez pouvoir vous approcher, vous allez savoir si c'est à 5, 4, 3, 2 mètres.
Et là, ils sont disponibles là, en ce moment? On peut les acheter en ce moment? Là. Ça existe physiquement? Parce que souvent, Apple va lancer des produits, ils disent qu'il est disponible, tu peux aller l'acheter sur le site Internet, mais ça arrive 4 mois plus tard.
Oui, bien, c'est disponible, vous pouvez les acheter. Je sais que ça a connu un succès fou. Pourtant, c'est pas une technologie nouvelle. Là. Ouais. Tiles avait exactement ça. Mais quand Apple débarque avec ça et qu'ils utilisent la puissance de tous les utilisateurs de produits Apple pour être capables de faire du repérage, c'est complètement fou. Évidemment, il y en a qui vont utiliser ça à mauvais escient, c'est-à-dire que pour essayer de traquer des gens ou des choses comme ça, mais techniquement, ils ne nous disent pas exactement comment c'est fait, mais si une pastille est à proximité d'un téléphone qui n'est pas lié à l'adresse avec laquelle on a activé cette pastille-là, vous pourriez être avisé que vous êtes à proximité d'une de ces pastilles, donc ça voudrait peut-être dire que quelqu'un, à votre insu, en a mis une dans votre sac à dos. Hein.
Ah, d'accord. Bon, et terminons avec Heineken, qui vient de développer le robot de l'été. Qu'est-ce qu'il fait, ce robot?
OK.
Il boit de la bière?
Il te l'apporte, Louis.
Ah bon?
On n'est pas loin du rêve.
C'est encore mieux.
Le BOT, le Beer Outdoor Transporter, donc le transporteur de bière d'extérieur, c'est littéralement une glacière sur roues, 6 roues, 2 principales et 4 plus petites qui vont vraiment permettre à ce robot-là de se promener à peu près partout. Il y a un système de caméras de haut-parleurs et on a intégré là-dedans, bien sûr, l'intelligence artificielle qui fait de la détection d'environnement. Oui. Et Louis, tu n'auras pas à avoir à transporter ta glacière tout au long de l'été parce que le fameux robot de Heineken va te suivre et t'obéira au doigt et à l'œil. Évidemment, il va être capable de savoir si tu sautes dans la piscine comme on le voit dans la démonstration. Il va s'arrêter sur le bord de la piscine. Il peut loger 12 canettes. Et pour les Américains, ben c'est possible de mettre la main sur un de ces robots-là via un concours heinekenbot.com, Heineken BOT, si tu tapes ça en ce moment. Honnêtement, ça fait rêver. C'est pas un concept qui est nouveau parce qu'on a vu ces espèces de grosses glacières sur roues qui servaient à faire des livraisons autonomes sur des campus universitaires. Mais ici, Heineken a décidé d'utiliser la science et la technologie pour les vraies affaires.
Pour les vraies, c'est ça, exactement. Les mettre au service de l'humanité.
En plein ça et des moyens portés.
Exactement. Merci Mathieu, on se parle demain.
À demain.
Salut.